En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le mercredi 14 juin 2006 s'est déroulée sous la coupole la remise solennelle des Grands Prix des fondations de l'Institut de France, présidé par André Damien, président de l'Institut, en hommage à la gratitude des mécènes et pour témoigner aux lauréats la reconnaissance des membres des différents jurys des académies. Depuis 1810, un millier de legs et donations provenant de particuliers ont permis de récompenser des travaux de recherche et des créations culturelles dans de nombreux domaines scientifiques et culturels. C'est pourquoi l'Institut de France, en tant que personne morale de droit public, abrite aujourd'hui un peu plus d'un millier de fondations. Le chancelier de l'Institut de France, Gabriel Debreuil, a ouvert la séance solennelle de remise des grands prix des fondations, poursuivant l'initiative du chancelier honoraire Pierre Messmer qui, l'an dernier, en 2005, a introduit la nouveauté de cette séance, la qualifiant de « révolution » en raison de l'importante générosité des mécènes ces dernières années, dont les actions se veulent résolument tournées vers l'avenir. Entre 1999 et 2005, 8 fondations nouvelles se sont tournées vers l'Institut pour entreprendre et réaliser leur volonté généreuse, selon les propos du chancelier Gabriel Debreuil. La fondation Louis D, créée en 2000, la fondation Simone et Sino Del Duca, sous l'égide de l'Institut de France depuis 2005, la fondation Le Foulon de la Lande, créée en 2000, la fondation Énergie, créée en 1999, la fondation Blanc-Ménil, créée en 1998, la fondation Yves Cotterelle, créée en 1999, la fondation Jeannelier Jean-René Fourtou, créée en 2002, la fondation Rodolphe Mérieux, créée en 2001. Ensemble, elles récompensent des hommes et des femmes remarquables pour leurs travaux de recherche ou leur œuvre pour un montant de 12 millions d'euros, 30 fois supérieur aux subventions distribuées en 1998. Les mécènes des fondations sont nombreux parce qu'ils voient en l'Institut et ses académies la garantie de l'indépendance de jugement. Vous entendrez au cours de la retransmission de cette séance solennelle du 14 juin les roulements de tambour de la garde républicaine dans ce lieu prestigieux qu'est la coupole. Vous entendrez donc dans un premier temps le discours du président de l'Institut André Damien, suivi du discours d'ouverture du chancelier Gabriel Debreuil. Pour présenter l'action du mécénat scientifique des fondations de l'Institut, Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, a d'abord salué l'œuvre et la générosité. Il a établi des comparaisons internationales pour souligner le rôle pionnier que jouent désormais ces fondations en France pour la recherche scientifique, l'importance des subventions accordées de plusieurs centaines de milliers d'euros pour les grands prix a conduit les jurys à une déontologie rigoureuse. Alain Carpentier de l'Académie des sciences a proclamé les lauréats du prix scientifique de la fondation Le Foulon de la Lande 2006, doté de 500 000 euros, au bénéfice de la recherche cardiovasculaire, se faisant pédagogue pour expliquer le trajet du sang bleu, le concept de la circulation fontan et la miniaturisation des instruments chirurgicaux qui permettent aujourd'hui d'opérer sans ouvrir. Les lauréats sont les professeurs Philippe Bonnefer et Francis Fontan. Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, a présenté les grands prix scientifiques décernés par la Fondation Louis D, dotée de 750 000 euros. Il a expliqué simplement l'extraordinaire fonctionnement des lasers d'aujourd'hui, capables d'intervenir à l'intérieur d'un globule rouge. Ce prix est remis pour l'année 2006 aux professeurs Manuel Joffre et Jean-Louis Martin pour leurs travaux de recherche sur le thème « Science et application au temps ultra-court ». Nicole Ledouarin, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, a remis le Grand Prix international de la Fondation Del Duca, doté de 300 000 euros pour des recherches en biologie moléculaire s'appliquant à l'épigénèse, au docteur Geneviève Almouzni. Yves Pouliquen, de l'Académie française, au nom de la Fondation Énergie, a récompensé le domaine des neurosciences pour des travaux d'ophtalmologie concernant l'altération de la rétine, en remettant le prix scientifique de 100 000 euros au professeur José-Alain Sahel. Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, a proclamé le prix mondial de la Fondation Simone et Sino del Duca, doté de 300 000 euros, décerné pour l'année 2006 à Jean Clair, historien de l'art et essayiste, pour l'ensemble de son œuvre. Florence Delay, de l'Académie française, a remis le prix culturel de la Fondation Louis D, doté de 750 000 euros aux Alliances françaises de Pologne. Rejoignons-les sans tarder sous la coupole.
Messieurs les ambassadeurs, messieurs les députés et sénateurs, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, mes chers confrères, la coupole sous laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, en séance solennelle de rentrée ou lors de la réception des nouveaux membres par certaines académies, est aujourd'hui ouverte, exceptionnellement, par une tradition qui commence à s'affirmer pour que puisse être rendu un hommage de gratitude envers nos mécènes et un témoignage de reconnaissance envers les lauréats de leur grand prix. Vous savez, aussi bien que moi, puisque vous connaissez l'histoire de l'Institut de France, que l'Institut et les 5 académies qui la composent, mais qui sont une personnalité distincte de l'Institut, un peu comme dans la théologie trinitaire, est riche, mais à la manière des frères mineurs, c'est-à-dire qu'elle est riche d'espérance et parfois de réalité, mais pauvre d'usage, puisqu'il n'y a pas une somme que nous ne recevions qui ne soit immédiatement donnée, distribuée, pour permettre d'encourager les sciences, les lettres et les arts. Cette tradition du mécénat par l'Institut, grâce à ceux qui lui apportent les subsides nécessaires, est ancienne, puisque le premier cas que j'ai trouvé est le don, le lait, à l'Académie française par Guès de Balzac, d'un prix, 25 ans après que l'Académie française ait été reconnue par lettre patente du royal, et qui était destiné à primer l'éloquence sacrée, il y en aurait bien besoin aujourd'hui d'en recréer un, et la poésie. La tradition a continué, puisque toutes les académies ont aimé couronner et faire connaître les raisons pour lesquelles elles choisissaient telle ou telle fondation, tel ou tel lauréat. Je ne citerai que deux ou trois exemples. Pierre et Marie Curie, qui ont bénéficié d'un don de l'Académie des sciences pour avoir le fameux gramme de radium grâce auquel ils ont pu continuer et terminer leurs recherches. Taine a été reconnu en 1854, bien avant son élection à l'Académie, par l'Académie française pour un travail sur Tite-Live. Paul Valéry, lui, a été reconnu par l'Académie des sciences morales et politiques, bien avant d'entrer à la française, pour un mémoire sur l'attention, sujet philosophique qu'il aimait particulièrement. Michelet, en 1835, a été reconnu par une étude sur la métaphysique d'Aristote. Tout ça paraît un peu étonnant, puisqu'ils ont eu des célébrités différentes, mais je dois ajouter, pour terminer mon propos, que grâce au prix académique, nous avons même découvert une sainte. Et ça, c'est important. En effet, en 1845, Dupin est né, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales, avocat célèbre, conseiller juridique et fiscal de Louis-Philippe. C'est lui qui a fait acquérir tous les appartements du Palais Royal, ce qui était un assez bon placement. Dupin est né, a été chargé, dans les prix de vertu, d'enquêter sur une institution nouvelle qui venait d'éclater, c'était les petites sœurs des pauvres. Et il a fait ce travail comme le font toujours les académiciens, c'est-à-dire avec sérieux, attention et avec ses méthodes d'avocat. Il a découvert, alors qu'on lui avait présenté un dossier dans lequel il a observé que des pages entières des registres avaient été lacérées, il a découvert que l'inventeur des petites sœurs des pauvres, l'abbé Le Pailleur, n'est qu'un prêtre orgueilleux et intrigant et qu'en réalité, les petites sœurs des pauvres étaient dues à une pauvre petite sœur, fondatrice, Jeanne Jugan, qui avait été totalement éteinte par l'abbé Le Payeur, à telle enseigne qu'on avait supprimé des registres son élection comme supérieure. Dupin aîné a fait un rapport franc, loyal, documenté, remarquable, a découvert donc Jeanne Jugan, et en 1982, elle a été élevée sur les autels, ce qui prouve que l'Académie, l'Institut et les travaux des prix académiques peuvent servir, sinon à l'édification personnelle de chacun des lauréats, au moins à leur édification collective. Ainsi donc, partant de l'éloquence, arrivé à la sainteté, c'est bien le sort des prix académiques, et je crois que nous allons aujourd'hui les célébrer dans l'ordre où ils le méritent. Alors, je voudrais rappeler que grâce à notre éminent confrère Louis Levaux, qui a, en répondant à un vœu du cardinal de Mazarin, a fait édifier cette coupole, très bien aménagée il y a quelques années, puisqu'il y avait une fausse coupole ici autrefois, juste à l'emplacement de la citation d'Ézéchiel, chapitre 31, verset 16. Et en construisant cette chapelle, il a savait que transformée en salle académique, elle conserverait un peu de la fraîcheur que l'architecte avait créée. Rendons grâce et donnons un prix à Louis Levaux pour avoir su nous conserver un peu de fraîcheur, non seulement dans l'esprit, mais même corporellement. Interviendront au cours de cette séance le président de l'Académie des sciences pour présenter le mécénat scientifique des fondations, puis M. Alain Carpentier, M. Jean Dercourt, Mme Nicole Le Doirin et M. Yves Fouliquin, qui présenteront les lauréats des différents prix dans ce domaine. Ensuite, Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, présentera le mécénat humanitaire et culturel des fondations de l'Institut. Mme Florence Delay et Mme Hélène Carrère-Dancos, à nouveau, présenteront les grands prix dans ce domaine. Mais je veux, sans plus tarder, donner la parole à mon confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est membre de l'Académie française et qui est chancelier de l'Institut, M. Gabriel de Breuil, qui, reprenant le flambeau de M. Pierre Mesmer, poursuit la tradition de cette séance solennelle de remise des grands prix des fondations de l'Institut de France. Je donne donc la parole à M. Gabriel de Breuil.
L'Institut de France tient désormais, sous cette coupole tricentenaire, deux séances annuelles. L'une est traditionnelle, c'est la séance de rentrée des cinq académies, qui, depuis le XIXe siècle, se tient le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de son organisation, et au cours de laquelle les délégués des académies viennent traiter, dans ce double hémicycle où siège le Parlement des savants, chacun selon sa manière, un thème commun qui illustre notre mission première, concourir au perfectionnement et au rayonnement des sciences, des lettres et des arts. C'est un tout autre visage que l'Institut offre aujourd'hui au cours de cette cérémonie, au cours de laquelle seront remis les grands prix des fondations. Un visage si nouveau que M. Pierre Mesmer, en ouvrant, en qualité de chancelier de l'Institut de France, pour la première fois la séance de l'an dernier à cette même place, n'a pas hésité à qualifier cette nouveauté, à juste titre, de révolution. Non pas que l'existence de fondations abritées par l'Institut de France et les académies soit une nouveauté. Elles existaient depuis longtemps, comme il a été rappelé, sous la forme de fondations littéraires, philanthropiques ou de fondations musées. Ce qui a changé dans les dernières années, ce sont les moyens considérables mis à la disposition de l'Institut de France pour intervenir dans les domaines scientifiques, culturels et humanitaires, au point que le changement quantitatif a entraîné une mutation qualitative. Si la traditionnelle séance de rentrée des cinq académies est la simple projection de nos pensées vers l'extérieur, La nouvelle séance des Grands Prix résulte de la rencontre des volontés, d'un concours de la générosité, de la confiance et du talent. Générosité et confiance des mécènes, tout d'abord, dans le sens devenu courant de celui qui donne. Ils ont décidé, à travers l'Institut, qui abrite leur volonté désintéressée, de donner à la France des moyens différents de ceux de l'État et indépendants des administrations, pour signaler, selon l'ancienne formule, les succès distingués dans les arts, les belles actions et la pratique constante des vertus domestiques et sociales. Beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui. Je les salue avec respect. Je tiens à leur rendre hommage et à leur dire à tous publiquement, ayant pu rencontrer la plupart depuis que j'ai accédé à ces fonctions, ma gratitude et mon admiration. Ils ont choisi d'offrir le fruit de leur labeur et de leur réussite. Ils ont choisi de renoncer à jouir d'une opulence acquise, puis recueillie avec les valeurs qui l'ont permise, pour les transmettre et permettre à d'autres de poursuivre leur œuvre et leurs actions exemplaires. Cette séance solennelle est la leur. Elle est destinée à honorer leurs intentions. Je les en remercie chaleureusement de nouveau. Ils constateront dans un instant que leur choix a été judicieux et que nous avons redoublé d'efforts pour nous montrer dignes d'eux dans l'accomplissement des tâches qu'ils nous ont confiées. Générosité et engagement de ceux-là même qui sont récompensés et qui consacrent leur vie à établir la concorde entre les hommes, à soulager les souffrances d'autrui, à poursuivre la conquête de nouveaux savoirs pour aider l'homme à vivre mieux. À ces chercheurs, à ces savants, à ces hommes et à ces femmes que leurs tâches ou leurs initiatives fécondes accaparent, je veux dire aussi mes sentiments de profonde gratitude. Ils sont loin des idoles médiatiques des temps modernes. Ils sont les vrais héros à montrer en exemple à la jeunesse de notre pays et des vieilles nations de notre jeune Europe. Je veux enfin saluer mes confrères de l'Institut. C'est pour la qualité de leur expertise, leur rigueur intellectuelle, leur dévouement au service de l'intérêt général, leur réputation internationale, que les mécènes se tournent vers l'Institut pour entreprendre et réaliser leur volonté généreuse. C'est à leur liberté d'esprit et à leur soif de transmettre l'étincelle qui a brillé en eux qu'est dû le choix des lauréats qui vous seront présentés tout à l'heure. Si l'on cherche quels sont les ressorts qui conduisent les mécènes à abriter à l'Institut de France une fondation, on voit qu'ils sont nombreux et que tous dépendent d'une cause unique, l'indépendance de l'Institut et des académies, qui est leur raison d'être même et qui est garantie à la fois par leur tradition, par leur statut et par leur prestige. Je me bornerai à énumérer quelques-unes des raisons qui peuvent amener à placer sa confiance dans notre institution. La souplesse dans la forme que peuvent prendre les fondations, qu'elles soient appuyées sur un capital ou sur des ressources renouvelées annuellement, une fondation reste avant tout un contrat entre deux parties dont les termes sont consacrés par le Conseil d'État. Le gage de la pérennité, tel est bien le moindre, le moins que puissent promettre des immortels. La rigueur dans la gestion des fonds, qui est placée sous le seul contrôle de la Cour des comptes. L'exécution scrupuleuse des volontés des fondateurs. La qualité de l'expertise rendue et du travail accompli par les jurys sous l'autorité des membres qualifiés des académies. C'est cette dernière richesse, notre seule richesse à vrai dire, qui est et demeure la pierre d'angle de la dimension nouvelle de notre activité. En effet, l'afflux de nouvelles fondations a modifié la place qu'occupait l'Institut de France dans le domaine du mécénat en France. Il en est maintenant un des acteurs importants, en appui appréciable aux objectifs d'intérêt général poursuivis par les pouvoirs publics. D'une mission de savoir et de faire savoir, l'Institut a progressivement évolué vers une mission de donner le pouvoir de faire, c'est-à-dire le plus souvent le pouvoir d'innover. Seule la vaste information, la qualité de jugement et la haute intégrité de mes confrères peuvent assurer que notre participation au rayonnement des sciences, des lettres et des arts s'opérera dans les meilleures conditions au profit de la collectivité. Car n'oublions jamais que nous sommes au service de la nation. Si le travail de l'esprit est par nature cosmopolite, si l'horizon du chercheur est toujours celui de la vérité et de l'universel, nous nous devons de ne pas négliger que nous œuvrons dans le cadre national. Nous n'avons pas d'exclusive et nos lauréats peuvent être de toute nationalité. Mais c'est aussi pour nous un devoir d'aider ceux qui, dans notre pays, conçoivent et élaborent l'avenir. Dans un contexte élargi de mondialisation et d'ambition pour notre pays, nous entendons être à la hauteur de nos responsabilités nouvelles. Avant de laisser la parole à mes confrères pour qu'ils nous exposent les qualités des lauréats de cette année, permettez-moi de les remercier encore de leur dévouement et de renier, au nom des lauréats, nos sentiments renouvelés de gratitude aux fondateurs et aux fondations qui vont, tout autant que les lauréats, être à l'honneur maintenant.
Merci, Monsieur le Chancelier, de cet exposé dans lequel vous nous avez démontré que la liberté dont jouit l'Institut est la clé de notre efficacité. Or, cette liberté, vous nous l'avez, ainsi que Monsieur Pierre Messmer, qui en a été le concepteur dans les dernières années, renforcée auprès des pouvoirs publics par les nouveaux statuts de l'Institut de France et des académies qui nous garantissent une liberté à l'abri des tracasseries administratives qui parfois pullulent en France. Ça fait partie, paraît-il, du bal français. Merci donc de ce que vous nous avez dit d'une manière si sentie. Et la parole est maintenant à M. Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, qui va nous entretenir du mécénat scientifique des fondations de l'Institut. Et je lui donne aussitôt la parole.
Chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je ne vais ici faire qu'illustrer et souvent paraphraser le discours du chancelier de Breuil concernant le développement du mécénat scientifique à l'Institut de France. Je voudrais d'abord, comme lui, commencer en saluant l'œuvre accomplie par le chancelier honoraire Pierre Messmer, qui a su convaincre tant de généreux donateurs de soutenir les actions de l'Institut de France. Grâce à eux, cet institut a distribué l'an passé, sous forme de prix, de bourses ou de subventions de recherche, 12 millions d'euros, 30 fois plus qu'il ne pouvait le faire en 1998, devenant ainsi l'un des principaux mécènes scientifiques de notre pays en matière culturelle et scientifique parmi nous. La recherche scientifique, tout particulièrement dans le domaine médical, et l'aide humanitaire ont été les principaux bénéficiaires de cette évolution, qui est sans doute aussi le signe d'une prise de conscience nouvelle de nombre de nos concitoyens. En effet, les comparaisons internationales, comme vous le savez, singulièrement par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni en matière de mécénat, et tout singulièrement de mécénat scientifique, montrent combien ces actions sont encore rares dans notre pays. Et croyez bien que je ne dis cela ici que pour souligner le rôle de pionnier des donateurs qui ont accompagné l'Institut. Et je voudrais ici simplement situer l'importance de l'action que leur générosité autorise. Une institution comme le Wellcome Trust en Grande-Bretagne finance une fraction importante des recherches en biologie et en santé, puisque disposant d'un capital évalué en 2000 à 15 milliards de livres, 24 milliards d'euros, cette fondation met à la disposition de la recherche environ 1 milliard de livres par an, soit 1 milliard et demi d'euros. Les grandes universités américaines bénéficient pour leur développement et en particulier pour leur recherche de multiples soutiens que leurs anciens élèves et bien d'autres leur accordent par l'effet combiné d'une ardente obligation morale intériorisée à l'égard de leur alma mater et d'une législation fiscale éclairée. C'est ainsi que la campagne mondiale récente conduite par Barbara Stowe, la vice-présidente du MIT, qui était à Paris il y a quelques jours, a recueilli 2 milliards de dollars. En comparaison, nos écoles les plus prestigieuses ont bien, elles aussi, créé des fondations qui prolongent par leurs actions ce que ces écoles ne peuvent accomplir dans le cadre public. Par exemple, en accordant aux élèves des bourses pour des formations complémentaires à l'étranger. Mais elles ne disposent que de fonds minimes en regard de ce qui se pratique outre-Manche ou outre-Atlantique. Autre exemple, la pratique de chaires soutenue par des mécènes destinée à de grands professeurs, si constante dans ces pays, est encore rarissime chez nous. Il y a bien là une différence culturelle importante qui reflète sans doute combien, malgré toutes les critiques et les impatiences, nos concitoyens attendent tout ou presque encore de la puissance publique. Les recherches en matière médicale échappent quelque peu à cette description. La Fondation pour la recherche médicale, l'Association de recherche sur le cancer, l'Association française contre les myopathies, l'Association de lutte contre la mucoviscidose, pour ne citer que quelques exemples connus, aident de manière efficace nombre de bonnes équipes, mais leur mission leur impose une orientation biomédicale bien définie. J'ai souvenir du conseil d'administration du CNRS où nous examinions les subventions versées par ces associations, à de rares exceptions près, elles étaient destinées intégralement au département des sciences de la vie. Voilà qui est bien légitime, car la biologie est une science dont les progrès ne cessent de susciter étonnement, admiration, espoir, et elle manque à l'évidence de financement adapté à la rude compétition internationale. Mais cela nous conduit à quelques interrogations qui ont parfois amené dans le passé des débats un peu vifs. Chacun sait que la difficulté de la programmation de la recherche tient évidemment au caractère inattendu des découvertes. Jamais, jamais, aucun rapport de prospective n'a été en mesure de prédire une découverte majeure. De plus, les disciplines sont fort intégrées. Et quand bien même nos concitoyens ne s'intéresseraient qu'à des finalités bien identifiées, la santé et l'environnement sont mentionnés toujours en premier, il serait sans doute imprudent de négliger pour autant les thématiques a priori plus éloignées. L'allongement spectaculaire de l'espérance de vie, qui croît encore, semble-t-il, d'un trimestre par an, doit certes beaucoup au progrès de la médecine et de la biologie, mais aussi à ceux de l'imagerie médicale, où la physique, les mathématiques, l'informatique tiennent également une très grande place. Il nous appartient donc de convaincre ces mécènes de la complexité de la démarche scientifique. C'est ainsi que l'intervention dans la recherche médicale d'une association de malades ou de parents de malades, comme l'Association française contre la myopathie, avait naguère suscité des réticences à la direction de l'INSERM, notre Institut national de la recherche médicale. Qui ne souhaitait pas que ces actions interfèrent avec les priorités définies par ces instances scientifiques? Mais l'orientation remarquable qu'ont su donner les responsables de cette association a écarté les hésitations. Le Généthon a permis à la France de jouer un rôle de pionnier dans un domaine très fondamental, celui du déchiffrage du génome humain, et nous ne pouvons que remercier ces responsables de leur attitude éclairée. Plus près de nous, le numéro, quasiment le dernier, 26 mai dernier, de la grande revue américaine Science, ou Science, comme on dit, relate les négociations avortées entre la Fondation Alfred Mann pour la recherche biomédicale et l'Université de Caroline du Nord, à qui la Fondation proposait un don de 100 millions de dollars. Le but était de créer un institut sans but lucratif destiné à valoriser la recherche universitaire. Les revenus devaient être partagés entre l'inventeur, l'université, l'institut et la Fondation Mann. L'université a refusé ce don, car elle a jugé que dans l'accord proposé, ses droits de propriété intellectuelle n'étaient pas suffisamment protégés. Le débat pour définir les règles régissant ce que le mécénat peut demander à la recherche est aujourd'hui très animé outre-Atlantique. En ce qui concerne notre pays, les fondations ont une vertu tout à fait essentielle. Nous sommes en effet, en matière de dépenses publiques, les champions du monde de la rigidité bureaucratique. Un exemple récent parmi bien d'autres. Pour être concret, deux scientifiques de grande valeur m'ont indépendamment relaté, il y a quelques jours, leur même déboire. Le premier, professeur au Collège de France, membre de l'Institut, bénéficie d'un contrat de recherche important versé par une fondation japonaise. Le second, directeur de recherche à l'École normale supérieure, a obtenu un contrat de recherche de la nouvelle Agence nationale de la recherche, l'une des dispositions réellement importantes et bienvenues de la loi récente sur la recherche. Les contrats qu'ils ont obtenus l'un et l'autre sont gérés par le CNRS. Ces deux scientifiques ont souhaité utiliser une partie de leurs fonds pour faire venir pour 1 ou 2 ans un jeune chercheur étranger, un post-doc comme l'on dit dans notre jargon. Ayant trouvé des candidats de grande valeur, ils leur ont proposé un salaire d'environ 2000 euros par mois. Voilà qui n'était certes pas somptuaire pour des jeunes docteurs et sciences devant trouver un logement à Paris. Le CNRS, qui ne débourse rien dans cette opération et prélève même un pourcentage pour cette gestion, a refusé que le salaire net puisse dépasser 1800 euros. Je ne sais si c'est la faute de cet organisme ou de ses contrôleurs financiers, mais il n'est pas un seul pays où l'on travaille aujourd'hui ainsi, les pieds enchaînés par une administration qui fixe les règles auxquelles elle veut nous soumettre a priori et refuse de se mettre au service de ceux-là même qui produisent. La gestion par des fondations, autorisée par la législation nouvelle, permet de s'affranchir de cette étouffante pesanteur et nous en attendons tous la possibilité de travailler et respirer plus librement. Grâce au mécénat, les fondations de l'Institut de France jouent désormais un rôle important pour la recherche scientifique. Plusieurs fondations de création récente la subventionnent par des actions qui visent à encourager l'excellence, mais vont souvent au-delà de l'action peut-être plus classique d'attribution d'un prix à un chercheur couronné par un jury. C'est ainsi que les prix scientifiques attribués depuis 2005 par la Fondation Simone et Sino del Duca consistent en un grand prix de 300 000 euros, dont les 4/5 sont une subvention pour les recherches du lauréat, 3 subventions de recherche de 100 000 euros pour de jeunes équipes, et de plus, chacun des lauréats reçoit une subvention lui permettant de faire venir 2 jeunes post-docs, sans les soumettre, bien sûr, à la contrainte absurde que je signalais plus haut. De même, la Fondation Louis D décerne 2 grands prix de 750 000 euros, l'un pour soutenir les actions humanitaires et caritatives, l'autre destiné à la recherche scientifique, avec, là encore, partage entre récompenses individuelles et subventions de recherche. Je voudrais signaler que ce matin, nous avons eu, pendant un peu plus de 3 heures, une séance dans laquelle les lauréats, qui vont vous être présentés tout à l'heure, de ces deux fondations, Del Duca et Louis D, dans une séance consacrée à l'imagerie, l'architecture, la physiologie des cellules vivantes, nous ont présenté leurs travaux et leurs espoirs, ce qu'ils entendent faire grâce à ces subventions. Je dois dire que tous ceux qui ont eu la chance d'y assister ont été enthousiasmés. Ils vous seront présentés tout à l'heure. L'importance de ces subventions nous a imposé de mettre en place des procédures obéissant à une déontologie rigoureuse. Large appel à candidature, constitution d'un jury de l'Institut auquel contribuent plusieurs de nos 5 académies, présélection par le jury des 5 meilleurs dossiers, envoi de ces dossiers à 5 experts internationaux réputés qui émettent un avis comparatif argumenté sur les 5 propositions. La tâche est importante et elle est donc rémunérée par la Fondation. Réunion finale du jury pour examiner les rapports et proposer un classement à la Fondation, qui établit le choix définitif. De 500 000 euros pour récompenser un chercheur ou aider des équipes travaillant sur les maladies cardiovasculaires. La Fondation Rodolphe Mérieux accorde plus d'1 million d'euros par an aux recherches en santé publique et aux missions de formation et d'éducation. La Fondation Yves Cottrel, qui subventionne diverses équipes de recherche et distribue à cet effet 325 000 euros dans le domaine de la santé et tout particulièrement des pathologies rachidiennes auxquelles professeur Cottrel, qui est parmi nous, a tant contribué. La Fondation Dalloz subventionne des recherches en ophtalmologie et bien d'autres fondations qui soutiennent des chercheurs ou des équipes de recherche dans divers domaines. Je me contenterai de les citer sans préciser leurs mentions respectives qui vont de la santé à l'environnement. Fondation AGF, Énergie, Botio du Lac, Yves Rocher, Jacques et Françoise Lécouzère, Fondation pour la recherche cardiovasculaire et depuis cette année, la Fondation UNIT, Guerra, Paul Baudouin, Lambrèche, Mayano, qui se propose de soutenir la lutte contre la douleur. Nous sommes donc bien loin de l'image d'académie exclusivement soucieuse d'élections et de choix de lauréats de prix, puisque grâce à nos généreux mécènes, nous pouvons véritablement intervenir pour donner à des équipes de tout premier plan international les moyens importants et souples d'emploi qui leur font tant défaut. J'ai visité récemment le magnifique laboratoire de l'Université de Florence du professeur Inguccio, lauréat du Grand Prix del Duca 2005, il y a un an. J'ai pu ainsi constater par moi-même combien cette subvention était magnifiquement employée. Ces nouvelles actions de mécénat nous conduisent à nous interroger sur le rôle des académies. Dans le domaine des sciences, les situations internationales sont très contrastées. À l'Est, Russie, Chine, etc., les académies élisent des scientifiques prestigieux, mais elles gèrent également un grand nombre de laboratoires, et elles se rapprochent alors de ce que nous appellerions un ministère. D'autres, comme aux Pays-Bas, ne gèrent que quelques laboratoires d'excellence. Mais beaucoup d'académies, comme c'est le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne et pour la nôtre, Académie des sciences, préfèrent garder leur indépendance de jugement et se mettre ainsi, comme le rappelait le chancelier, au service de la nation et pas seulement des pouvoirs publics. La Royal Society, notre équivalent outre-Manche, consacre environ 40 millions de livres par an, dont un quart issu du mécénat privé, trois quarts du gouvernement, de l'État, à des actions de soutien à des chercheurs et tout particulièrement accorde des subventions, en fait des salaires, à plusieurs centaines de jeunes research fellows dans le début de leur carrière. Ils travaillent ainsi dans un laboratoire, le plus souvent universitaire, pendant quelques années, durant lesquelles ils peuvent consacrer tout leur temps à la recherche avant de s'orienter vers l'université ou le monde économique. Quant à nous, le mécénat des fondations nous permet néanmoins d'intervenir pour encourager la recherche du plus haut niveau, tout en préservant notre indépendance. Grâce à ce mécénat, nous nous engageons dans une voie dans laquelle la souplesse de l'action n'est accompagnée d'aucun laxisme. Voilà qui est nouveau et précieux dans notre pays, et je voudrais, au nom de l'Institut et de toute la communauté scientifique, exprimer à ces mécènes, notre reconnaissance pour leur générosité éclairée.
Merci à Monsieur le Président de l'Académie des sciences de nous avoir parlé du mécénat scientifique des fondations de l'Institut. Je donne la parole maintenant à Monsieur le Professeur Alain Carpentier pour la proclamation des lauréats du prix scientifique de la Fondation Le Foulon de la Lande.
Il y a quelques 6 ans, Monsieur et Madame Jean-Pierre Le Foulon, héritiers du laboratoire de la Lande, ont souhaité créer au sein de l'Institut de France et sous l'égide du chancelier Messmer, une fondation au bénéfice de la recherche cardiovasculaire. La fondation Le Foulon de la Lande, c'est 1 million d'euros chaque année, moitié pour financer des bourses de chercheurs français et moitié pour financer un grand prix international. Et le grand prix international de cette année va au professeur Francis Fontan et au professeur Bonhoeffer. Ceci en reconnaissance de leurs travaux sur les malformations du cœur. Peu d'entre vous, sans doute, savent qu'un enfant sur 100, à la naissance, présente une malformation du cœur. Malformations qui sont dues à l'arrêt du développement de certaines parties du cœur lors de la vie fœtale. Eh bien, ces malformations sont soit un ventricule mal développé, soit une cloison à l'intérieur du cœur. Je passe sur les détails, mais quelque chose ne fonctionne pas bien à l'intérieur. Et ces enfants, non seulement sont très malades, mais sont promis à une mort certaine en l'espace de quelques semaines ou mois. Vous avez sûrement entendu parler de ces enfants bleus, ces enfants malingres, chétifs, prostrés, qui n'ont même pas la force de pleurer. En tant que chirurgien moi-même, je ne connais pas de situation plus dramatique que de voir un enfant qui n'a même pas la force de pleurer. Eh bien, c'est grâce à des hommes et des femmes comme le professeur Bonhoeffer et le professeur Fontan qu'un certain nombre de ces enfants peuvent être aujourd'hui sauvés. Alors, je vous propose 2 voyages. Le premier voyage va nous conduire à Bordeaux. À Bordeaux, le professeur Fontan a contribué à créer l'un des premiers services français de chirurgie cardiaque pédiatrique, chirurgie cardiaque de l'enfant. Et si vous allez au bout du monde, Dans n'importe quel congrès de cardiologie, que vous prenez le premier venu et vous lui dites « Est-ce que vous avez entendu parler de Francis Fontan ?» Il vous dira immédiatement « Ah oui, l'opération de Fontan qui permet de sauver des centaines d'enfants. » Alors le problème, c'est que cette opération pour laquelle Francis Fontan, ici présent, est distingué, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer et que vous allez comprendre. Alors, chacun sait qu'on a deux cœurs. On a un cœur droit et un cœur gauche. Le cœur droit plein de sang bleu et le cœur gauche plein de sang rouge oxygéné. Alors, on va aller visiter le cœur droit. Et pour ça, je vous invite à me suivre par la veine cave, ce gros vaisseau qui conduit dans une première chambre, l'oreillette, qu'on appelle l'oreillette droite, puis dans une deuxième chambre, qu'on appelle le ventricule. Le ventricule, c'est cet organe qui se contracte et qui envoie ce sang bleu dans les poumons pour se faire oxygéner. Et entre ces deux chambres, il y a une porte. Cette porte, ça s'appelle une valvule. Ça s'appelle la valvule tricuspide. Et là, c'est là qu'on rencontre le professeur Fontan, désespéré, au pied de cette valvule, désespéré parce que cette valvule est mal formée, elle ne s'ouvre pas, et le sang n'arrive pas à passer dans le ventricule et donc à s'oxygéner dans les poumons. Alors le professeur Fontan est naturellement ému de cette situation et retourne ce problème dans sa tête et dit peut-être qu'on pourrait court-circuiter cette porte fermée puisqu'on ne peut pas la forcer et faire un conduit entre l'oreillette droite où arrive le sang bleu et l'artère pulmonaire où devrait aller normalement ce sang bleu pour se faire oxygéner. Et c'est ça l'opération de Fontan. Vous avez tout compris. Alors, le problème qui se pose, c'est la solution, paraît toute simple. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de flux, de débit, de pression que ne réunirait pas un physicien de l'Académie des sciences. Ce concept qu'on appelle la circulation de Fontan s'est révélé en fait beaucoup plus important qu'une simple opération de chirurgie cardiaque, car il a été adapté au traitement d'autres malformations et qui permet de sauver beaucoup d'autres enfants. C'est pourquoi nous honorons le professeur Fontan aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons aller à Londres. Et là, nous avons visité le très réputé service de cardiologie pédiatrique de cette ville, dans lequel œuvre le professeur Philippe Bonhoeffer, ici présent. Alors, contrairement à l'endroit où il travaille, il n'est pas anglais, il est allemand. Il a été formé en Italie. Il a été également, il a travaillé en France. Il travaille également au Kenya. En Mozambique, et il joue merveilleusement du violon. Alors, il est l'un des pionniers de cette nouvelle discipline merveilleuse qui s'appelle la cardiologie interventionnelle, qui consiste à faire de la chirurgie sans en avoir l'air, c'est-à-dire qu'on fait des actes chirurgicaux sans ouvrir. Vous savez que le chirurgien ouvre, est obligé d'ouvrir, pénétrer dans le cœur, etc. Est-ce que lui, c'est un peu passe-muraille et Pygmalion à la fois. Il miniaturise ses instruments, il les met au bout de cathéters, au bout de longues canules, il les introduit au niveau du cœur et à distance, ces instruments font le travail qu'il doit faire, par exemple, de dilater une valve qui est rétrécie. Alors, le problème, c'est que dilater, il a inventé un appareil pour ça, de dilatation des valves du cœur à distance. Le problème, c'est que quelquefois, la valve se met à fuir et il faut la remplacer. Alors, c'est là qu'il a été confronté à ce problème et de remplacement de valve. Et comme ces enfants sont très, très malades, ont souvent été opérés plusieurs fois, ils ne peuvent pas subir d'intervention chirurgicale. C'est trop risqué. Et là, il se dit, si j'arrivais à mettre une valve au bout de ces cathéters que l'on introduit à travers la peau, un vaisseau qui va jusqu'au cœur, eh bien, on arriverait à sauver la vie de ses enfants, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, mais il y avait un problème très important à résoudre, c'était de dire, mais quelle valve vais-je mettre ? Or, les valves que nous avons, il y en a deux catégories. La catégorie la plus fréquente sont des valves mécaniques, qui sont volumineuses, qui ne peuvent pas se comprimer pour passer à travers la peau et monter à travers un vaisseau. Alors, heureusement, il y a des valves aussi, des valves biologiques, qui ont été inventées en France il y a très longtemps, et qui, elles, permettent d'être comprimées parce qu'elles sont souples. Alors, c'est ce qu'il choisit, il les met à l'intérieur d'une cage, il comprime cette valve à l'intérieur d'une cage, jusqu'à avoir une valve de 1 mm, il l'introduit à travers la peau, à travers la veine cave, et cette valve, une fois arrivée au niveau du cœur où elle doit être déployée, eh bien, est implantée à l'endroit où elle va corriger l'anomalie. Cette première du professeur Fontan, qui a été saluée il y a 5 ans comme vraiment une étape très importante, parce qu'elle permet de sauver des enfants qui n'avaient pas d'autre alternative que de décéder, eh bien, aujourd'hui, est utilisée de plus en plus, avec succès, et ouvre des portes nouvelles pour la thérapeutique et pour sauver d'autres enfants. Et c'est pourquoi nous honorons le professeur Bonhoeffer aujourd'hui. Alors, le jury international du prix Le Foulon de Lalande, auquel je rends hommage, a voulu ainsi distinguer cette année deux lauréats pour deux raisons que je vais donner très très brièvement. D'abord parce que la chirurgie est trop rarement récompensée par les prix les plus éminents. Ensuite parce que l'un et l'autre sont un exemple de la manière dont cette discipline progresse aujourd'hui. Le chirurgien novateur aujourd'hui, ça n'est plus cet artiste à l'état nécessaire, comme disait merveilleusement Paul Valéry, c'est aussi et surtout un scientifique. C'est un scientifique qui emprunte aux sciences fondamentales les connaissances et les outils qui sont nécessaires à sa mission. C'est ce qu'on fait avec brio Francis Fontan et Philippe Bonhoeffer pour la tâche la plus noble qui soit, sauver la vie d'un enfant. Et c'est pourquoi nous les honorons tous deux aujourd'hui.
La parole est maintenant à M. Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour la présentation des lauréats du Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D.
Monsieur le Chancelier honoraire, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les membres du Conseil d'État, mes chers confrères, Madame, Monsieur. Un généreux mécène qui a souhaité rester anonyme a créé une fondation à l'Institut de France pour attribuer chaque année un grand prix scientifique dont je parlerai et un autre prix qui sera présenté ultérieurement. La fondation est administrée par un conseil présidé par le chancelier M. Gabriel de Breuil, assisté de M. Pierre Messmer, chancelier honoraire, et de François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Le prix est destiné en 2006 à un scientifique ou à une équipe française. Parmi les sujets proposés par l'Académie des sciences, le conseil de la Fondation a réuni celui intitulé les lasers au temps ultra-court et leurs applications. Comme l'a dit le président Brézin, il y eut un appel d'offres, 20 propositions ont été soumises à une commission d'académiciens qui a été désignée par le Conseil de la Fondation et qui comprend des membres de l'Académie des sciences, un membre de l'Académie française et deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques, tous scientifiques ou médecins. Les dossiers retenus, il y en eut 5, par la commission, ont été soumis à 5 spécialistes qui ont eu tous les dossiers et ont sorti 2 noms, 2 dossiers. Ils ont été présentés à la Fondation et la Fondation a choisi M. Jean-Louis Martin et Manuel Joffre, qui ont porté une remarquable contribution. Les travaux qu'ils font le sont ensemble, bien sûr, au sein du laboratoire d'optique de biosciences à l'École polytechnique. Ce laboratoire est soutenu tout à la fois par le CNRS et l'Institut national de la recherche médicale. Monsieur Jean-Louis Martin est né en 1952. Il est docteur en sciences. Il est directeur de recherche à l'INSERM. Il est professeur à l'École polytechnique. Il est directeur de ce laboratoire dont je viens de parler. Manuel Joffre est né le 2 octobre 65. C'est un ancien élève de normale supérieure, la rue d'Ulm, agrégé de physique, docteur en sciences, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École polytechnique. L'équipe présentatrice du projet contient Antigone Alexandrou, Emmanuel Beaurepaire, Adeline Bonvalet, Delphine Desbar et Martin Voss. Depuis les années 80, les travaux des lauréats concernent la spectroscopie femtoseconde. Femtoseconde est une durée de temps que je n'exprimerai pas en puissance de 10, mais je dirais très, très court temps. Ces femtosecondes et des techniques associées très nombreuses. Ils ont contribué à élucider le mécanique moléculaire ultra rapide au sein des macromolécules biologiques, intervenant dans le transport de l'oxygène, dans la photosynthèse bactérienne, dans le métabolisme oxydant, ainsi que dans les processus primaires de la vision. Depuis quelques années, une part de leur objet d'étude est concentrée sur le suivi et le contrôle des réactions in vivo. Le projet de recherche qui est présenté, ce sont des travaux d'abord conduits sur la fameuse drosophile, la passion des biologistes, qui ont permis ces travaux de démontrer la permanence du contrôle, du concept de contrôle cohérent très rapide. Dans le domaine de la biologie, la lumière cohérente et caractéristique des lasers permet un contrôle d'amplitude et de puissance des rayons, supprimant tout mouvement aléatoire, et peut ainsi intervenir de façon parfaitement localisée et précise. C'est un outil exceptionnel. Ce qui est utilisé, par exemple, lors de l'intervention dans l'œil pour obstruer de petits vaisseaux responsables de micro-hémorragie. C'est également utilisé pour sculpter un globe oculaire, un cristallin, à la suite d'un accident. Mais plus encore, les interventions se font au sein même des cellules, à l'intérieur, par exemple, d'un globule rouge. Et enfin, des molécules qui sont à l'intérieur de ces globules rouges ou de ces toutes autres cellules peuvent être atteintes par le rayonnement, et ce qui permet avec une très grande précision d'affecter telle ou telle fraction de cette molécule, et vous comprenez qu'il soit ainsi possible de préparer un réceptacle à un médicament. Nous en sommes loin, c'est le projet. L'objet de la recherche future est d'explorer le résultat dans une démarche à l'interface entre la physique et la biologie. Pour être mené à bien, ce projet nécessite de nouveaux moyens expérimentaux à une équipe très structurée. Une source laser de haute énergie et à fort taux de répétition produisant des impulsions de durée extrêmement petite pour la microscopie non linéaire, c'est à puissance de grande largeur spectrale. Ce laser pourra être soit un oscillateur à cavité étendue, et en outre, un deuxième appareillage est indispensable, une source de haute énergie pour le déclenchement des réactions biochimiques à l'aide d'impulsions visibles et infrarouges. La dotation du prix Louis D pourra contribuer très efficacement à réaliser ces travaux dans l'intérêt de la science, des sciences biologiques. Il pourra être un considérable apport dans le domaine de la vision, pour reprendre l'exemple évoqué, mais cela va bien au-delà de ce qui est dans les aptitudes de cette méthode. Les résultats des travaux et ceux de ce projet ont fait espérer à un des rapporteurs, je cite, « l'ouverture d'une véritable révolution dans la biologie ». Le prix qui est ainsi donné est en fait une subvention, comme l'a bien indiqué le président de l'Académie des sciences, aidera considérablement à la résolution d'un problème biologique, mais ceci par des outils de la physique la plus développée et la plus en pointe qui existe actuellement. Je vais donc appeler les lauréats à venir recevoir leur prix.
La parole est maintenant à Madame Nicole Le Doirin, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, pour la proclamation du lauréat du prix scientifique de la Fondation Simone Etchino del Duca.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, mes chers consoeurs et chers confrères, Mesdames, Messieurs, la Fondation Simone Etchino del Duca, créée en 1995, dont le but, je cite, est de favoriser la recherche pour lutter contre les maux dont souffre l'humanité, remet chaque année un grand prix international de 250 000 euros destiné à récompenser une équipe de chercheurs scientifiques français ou étrangers. Ce prix est attribué par un jury composé de membres de l'Académie des sciences appartenant alternativement à sa première ou à sa seconde division. Cette année, c'est à la division des sciences chimiques, biologiques et médicales et leurs applications qu'est revenu le privilège de désigner le récipiendaire de ce prix. Le choix du jury s'est porté sur Madame Geneviève Almousny et l'équipe qu'elle dirige à l'Institut Curie à Paris. La dynamique de recherche de Madame Geneviève Almousny, directeur de recherche au CNRS et de son équipe, est la dynamique de la chromatine. Le terme de chromatine désigne la molécule d'ADN, support de notre patrimoine génétique, et les protéines qui lui sont associées, parmi lesquelles les histones sont majoritaires. Les gènes qui détiennent l'information génétique sous la forme d'un code sont responsables de notre phénotype, c'est-à-dire de la forme, de la taille et du fonctionnement de notre corps. Ceci est bien établi, et le séquençage du génome a considérablement enrichi nos connaissances sur les gènes, leur nombre, leur structure et leur fonctionnement. Un paradoxe et une grande interrogation subsistent cependant, car toutes nos cellules possèdent les mêmes gènes, alors qu'elles ne sont pas toutes semblables et qu'elles remplissent dans l'organisme des fonctions bien distinctes. Cette diversification cellulaire est le résultat de l'activité différentielle des gènes dans l'un et l'autre des types cellulaires qui composent notre corps. À l'information qui est contenue dans l'ADN sous la forme du code génétique, s'ajoute son mode d'emploi, qui non seulement varie d'un type cellulaire à l'autre, mais qui aussi permet à l'individu de répondre aux conditions changeantes de l'environnement. Ainsi peut-on parler d'un code épigénétique, c'est-à-dire qui se surajoute à la génétique et qui consiste dans la lecture et l'utilisation sélective de l'information contenue dans le génome au cours du développement de l'embryon et plus tard en réponse aux conditions extérieures rencontrées par l'organisme. Il existe donc, entre le programme contenu dans le génome et son expression finale, une autre série d'instructions qui influencent l'activité génétique sans altérer la nature des gènes, c'est-à-dire la séquence des bases dans l'ADN, et par conséquent sans altérer le patrimoine génétique. Comprendre ce qu'est cette épigénèse constitue le grand chantier de la biologie moléculaire contemporaine. Les travaux de Madame Geneviève Almouzni s'inscrivent dans cette perspective. En utilisant comme matériel expérimental le xénope, un crapaud africain servant de modèle dans nombre de laboratoires de biologie du développement, elle a mené une étude approfondie sur l'agencement de la chromatine dans le noyau cellulaire au cours des différentes phases du cycle de la division des cellules, lors de la réparation des lésions de l'ADN et aussi au moment de la différenciation cellulaire. Elle a montré que l'organisation de la chromatine et son assemblage avec les histones exercent un effet décisif sur la transcription, c'est-à-dire sur la première phase de la synthèse protéique. Ce travail très original révélait, dès les années 90, l'importance de l'organisation du génome pour l'expression des gènes. Madame Almouzni a ensuite identifié des facteurs qui jouent un rôle déterminant dans l'assemblage des constituants de la chromatine. Elle a découvert et isolé et cloné le gène correspondant d'un facteur appelé CFA1 pour Chromatin Assembly Factor 1 ainsi que plusieurs autres, et elle en a étudié et démontré le fonctionnement. Le rôle de ces facteurs d'assemblage, en effet, ne se limite pas à la régulation de la lecture du code génétique, ils interviennent aussi lors de la réparation de l'ADN. Ainsi convergent dans la cellule plusieurs mécanismes qui assurent à la fois le maintien de l'intégrité du génome et son fonctionnement. L'hétérochromatine constitutive, située au voisinage des centromères, est reconnue comme jouant un rôle essentiel dans la répartition des chromosomes dans les cellules résultant de la mitose. Cette hétérochromatine péricentrique est donc d'une importance capitale pour assurer la stabilité du génome, un phénomène qui ne se produit pas, par exemple, lors de la genèse des trisomiques. Geneviève Almouzni a montré que ce phénomène est associé à un facteur jusque-là inconnu, une molécule d'ARN qui reste encore à identifier. Ce résultat ouvre un nouveau champ de recherche qui révèle l'importance longtemps insoupçonnée des acides ribonucléiques dans le domaine très critique de la stabilité du génome, dont dépend le fonctionnement de la cellule. Sa perturbation conduit à des troubles graves et notamment au cancer. Le 21e siècle sera celui de l'épigénétique. Les travaux de Madame Almouzni et de son équipe s'inscrivent dans ce cadre très prometteur. J'ajoute qu'elle occupe au plan international une place de tout premier plan dans ce programme d'avenir. Merci.
La parole est maintenant à Monsieur le professeur Yves Pouliquen pour la proclamation du lauréat du prix scientifique de la Fondation Énergie.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs. C'est en mai 1999 que Monsieur Jean-Paul Baudecroux, président du comité de surveillance Énergie Group, a créé sous l'égide de l'Institut de France, chargé d'en assurer la gestion scientifique et administrative, la Fondation Énergie. Cette heureuse initiative reposait sur le désir de soutenir de jeunes équipes récemment engagées dans la recherche médicale, d'autant plus que celle-ci concernerait le domaine des neurosciences. Le comité de direction de cette fondation Énergie est composé de membres appartenant au directoire de Énergie et à l'Académie des sciences. Il est co-présidé par M. Jean-Paul Baudecroux et M. Pierre Mesmer. Ce sont les membres de l'Académie des sciences de ce comité qui constituent le jury destiné à désigner le lauréat, qui se réserve la possibilité de coopter, en fonction du sujet retenu, les personnalités scientifiques qui lui semblent les plus compétentes. C'est à la suite d'un large appel national et européen que le Grand Prix Énergie est décerné chaque année. Il est d'un montant de 100 000 euros. À ce Grand Prix s'ajoutent des subventions de plusieurs milliers d'euros versés au bénéfice d'autres laboratoires de recherche médicale, et cela chaque année. Cette année marque la 7e attribution de ce Grand Prix Énergie. Rappelons-en les attributions antérieures. En 2000, c'est le professeur Alain Fischer qui l'a reçu pour la thérapie génique des enfants bulles. En 2001, le docteur Catherine Billard pour les dyslexies de l'enfant. En 2002, le professeur Antoine Guédenet pour la dépression de l'enfant. En 2003, le professeur Olivier Dulac et son équipe pour l'épilepsie infantile. En 2004, le docteur Piotr Topilko pour ses recherches sur les cellules souches réparatrices. En 2005, les professeurs Patrice Trambahuy de Paris et Guy Richardson du Sussex pour leurs études sur la surdité. La thématique retenue pour le Grand Prix Énergie 2006 concernait la pathologie du système visuel. Domaine très vaste, bien sûr, mais que limiter son inscription dans le domaine des neurosciences? Les atteintes de l'œil peuvent être, comme vous le savez, d'une infinie variété. Mais les progrès spectaculaires qu'a connus l'ophtalmologie, tant en médecine qu'en chirurgie, permettent de nos jours d'en réduire ou d'en supprimer les terribles conséquences. Il n'en est pas de même, hélas, lorsque s'installe sur la rétine, ce prolongement si particulier du cerveau, des altérations irréversibles responsables à terme de cécité. C'est le cas des dégénérescences rétiniennes. Chacun d'entre nous connaît une personne âgée qui se plaint de ne plus pouvoir lire par dégénérescence de sa rétine centrale, qu'on appelle la macula. L'âge en est certes responsable, mais reste encore un alibi derrière lequel se cachent les vraies raisons que nous ignorons. Plus rare, mais non moins redoutable, la rétinopathie pigmentaire affecte 30 à 40 000 personnes en France et 1 500 000 dans le monde. Et il faut savoir qu'elle conduit le jeune sujet qu'elle atteint à la cécité en 20 à 30 ans. L'une et l'autre, d'ailleurs par des mécanismes différents, altèrent les photorécepteurs rétiniens que sont, ce que vous avez appris à connaître, les cones, les cellules à cônes et les bâtonnets. Ces cellules qui, pour les unes, permettent de lire et de voir les couleurs, ce sont les cones de la macula. Les autres permettent de percevoir l'étendue de notre champ visuel et, quelque peu la nuit, ce sont les bâtonnets. C'est la physiologie de ces photorécepteurs et leurs rapports intimes qui retiennent l'attention de nos chercheurs, car de leur connaissance résultera la capacité d'interrompre l'enchaînement des étapes de leur dégénérescence et, par conséquent, leur terme ultime, la cécité. Le récipiendaire 2006 a le grand mérite d'avoir forcé une part du mystère de cette dégénérescence. Nous avons le plaisir de désigner le professeur José Alain Sahel. Le professeur José Alain Sahel est un ophtalmologiste singulier. Il allie à ses compétences de clinicien responsable d'un service de malades au Centre national des 15-20, celle d'un véritable chercheur, ce qui est remarquable, car la combinaison de ces deux talents en est rare et laborieuse. Il est directeur de recherche de l'unité mixte de recherche de l'INSERM 592, Université Pierre et Marie Curie, sur le thème physiopathologie cellulaire et moléculaire de la rétine. Il est en outre coordinateur du programme national de recherche sur la vision, piloté par l'INSERM, et il est un éminent partenaire des instances internationales dédiées à la vision. Mais aux yeux du jury qui en a fait le lauréat de ce Grand Prix Énergie, c'est la remarquable découverte qu'il a faite concernant l'enchaînement des facteurs qui conduisent à la dégénérescence des cônes dans la rétinopathie pigmentaire qui constitue son plus valeureux titre. Reconnaissant que l'ultime étape de cette maladie, caractérisée par la mort des cônes, ceux dont est responsable la lecture, succédait à la disparition préalable des bâtonnets, ceux qui assurent la vision périphérique et nocturne. Il émit l'hypothèse que la survie des cônes dépendait de la présence des bâtonnets. Idée simple, hypothèse peut-être simple, mais cette hypothèse de la survie des cônes, que la survie des cônes dépendait de celle de la présence des bâtonnets, allait se révéler riche de conséquences. Car ce fut une hypothèse vérifiée qui a permis l'identification d'une protéine sécrétée et exprimée spécifiquement par les bâtonnets et dont le gène responsable de cette synthèse est identifié et reconnu comme indispensable à la survie des cônes dans le modèle animal utilisé. On entrevoit la protection que l'administration d'une telle protéine peut apporter à une rétine qui dégénère et les réflexions que ce mécanisme entretient relativement aux espoirs que, pour la première fois, on inscrit à l'actif d'une véritable protection pharmacologique des photorécepteurs rétiniens. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le professeur José Alassael compte parmi les meilleurs chercheurs actuels spécialisés en pathologie rétinienne dégénérative et nous sommes certains que ce grand prix énergie accélérera, selon les vœux du fondateur, l'accomplissement de son programme prometteur. José Alain.
Quittant le mécénat scientifique des fondations de l'Institut, nous allons maintenant entendre Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, nous présenter le mécénat humanitaire et culturel des fondations. Je lui donne aussitôt la parole.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les secrétaires perpétuels, Madame le secrétaire perpétuel honoraire, chers confrères, Mesdames et Messieurs, la Convention qui supprima en 1793 les académies jugées gangrénée d'une incurable aristocratie, décida pourtant dans un même élan que la République avait besoin d'un institut chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences. Et moins de 2 ans après la disparition des institutions condamnées et juste avant de se séparer, la même assemblée créait cet institut dont avait rêvé Condorcet, je le cite, « abrégé du monde savant, corps représentatif de la République des lettres, honorable but de toutes les sciences et du talent, la plus magnifique récompense des grands efforts et des grands succès. » Conçu comme Parlement des savants, l'Institut de France avait pour mission première de faire progresser le savoir de la nation, c'est-à-dire d'y contribuer intellectuellement et matériellement. Pour se conformer à cette ambition, l'Institut et les académies reconstituées en son sein d'abord sous forme de classe, puis rétablies avec un statut de plein droit, ont bénéficié de l'aide publique, mais surtout de la générosité de mécènes privés, ce qui permit à ces institutions de devenir à leur tour mécènes grâce à leurs donateurs et en leur nom. Les activités de mécénat ont toujours tenu une grande place dans les missions de l'Institut, mais elles se sont étendues au fil du temps, couvrant de nouveaux champs de compétences et surtout acquérant au cours des toutes dernières années une dimension et une efficacité jusqu'alors inconnues. À cette évolution, ou plutôt à cette révolution, il y a plusieurs explications. La croissance exponentielle des besoins d'abord, le progrès scientifique, caractéristique du siècle passé, exige que la recherche reçoive des moyens considérables que l'État s'efforce certes de dégager, mais qui dépassent de loin ses possibilités. Le développement des préoccupations humanitaires est aussi un trait dominant du siècle écoulé. Mais pendant une longue période, les mécènes ont hésité à s'engager dans cette voie. Quant à la culture, elle fut durablement tenue pour un domaine de la plus haute noblesse, mais passé le temps des souverains et des grands seigneurs protecteurs des lettres et des arts, vint le temps de l'abandon. Sans doute les académies ont-elles eu dès leur début pour vocation de soutenir par leurs fondations, par leurs prix et leurs bourses, le progrès de la culture. Mais si dans les pays anglo-saxons, la notion de mécénat fut toujours à l'honneur, mobilisant particuliers et entreprises, en France, l'État a eu durablement tendance à se tenir pour l'acteur principal, sinon exclusif, du développement culturel et artistique. Ça n'est qu'au début du XXIe siècle, en 2003, que la loi sur le mécénat donna enfin une véritable reconnaissance aux fondations privées. À ces deux raisons, s'en ajoute une dernière, décisive. La volonté de M. le ministre Pierre Messmer, aujourd'hui chancelier honoraire de l'Institut, de faire du Parlement des savants le premier mécène de France. Sa réputation d'homme d'État rigoureux, son acharnement à développer le mécénat privé, ont eu pour effet d'attirer vers l'Institut de grands donateurs. Si la recherche scientifique en a retiré un bénéfice considérable, le mécénat culturel et humanitaire n'a pas été moins bien loti. Grâce à des personnalités aussi généreuses que discrètes, les fondations de l'Institut se sont multipliées, les domaines d'action et les projets soumis se sont diversifiés, et le niveau des dotations a permis de soutenir des entreprises collectives ou individuelles qui contribuent au prestige culturel de la nation et permettent de développer des actions particulières que l'État ne peut assumer ou assumer pleinement et qui correspondent à des besoins criants. Cela est tout particulièrement vrai du domaine humanitaire. Pour comprendre le mouvement qui pousse les fondateurs à donner à l'Institut les moyens de ce mécénat culturel et humanitaire, il importe de souligner certaines particularités du fonctionnement des fondations. Souplesse et diversité d'abord. Certaines fondations sont à vocation multiple, scientifique et culturelle, ou culturelle et humanitaire. D'autres sont spécialisées. Certaines fondations délèguent leur choix à l'Institut et s'en remettent à son expertise. D'autres participent aux délibérations et aux choix des membres de l'Institut. Les statuts, élaborés en commun par l'Institut et les fondateurs à l'heure où se créent les fondations, en définissent toujours le mode de fonctionnement. Une particularité remarquable de ce mécénat est que, grâce à la contribution bénévole, mais combien active, des membres des cinq académies, l'Institut dispose en tout domaine de l'expertise nécessaire aux choix qui doivent être effectués. La capacité de l'Institut de France à mobiliser en tout temps les membres des cinq académies, leur savoir multiple, leur dévouement et leur réputation, et d'y ajouter aussi des experts extérieurs invités pour la circonstance, afin de déceler les lauréats les plus dignes d'être salués, explique aussi la confiance des donateurs. La qualité des lauréats, l'importance culturelle et sociale des projets retenus et le suivi de l'action récompensée contribuent à donner des fondations et du mécénat de l'Institut une image remarquable qui s'impose dans la sphère publique et tisse des liens étroits entre les fondateurs, l'Institut et tous ceux qui, grâce aux prix reçus, peuvent poursuivre et développer leurs activités. La confiance est l'un des grands acquis de ce mécénat en constant développement. Confiance des fondateurs dans l'Institut, auxquels ils ont apporté généreusement des sommes considérables, mais aussi confiance de la société française dans ce mécénat aux visages innombrables qui permet le progrès général du savoir et de la solidarité au service de tous. Deux grandes fondations de plein exercice interviennent dans le domaine qui nous occupe. En premier, la fondation Louis D, que l'on a déjà citée sur le plan scientifique, qui décerne chaque année un grand prix orienté en alternance vers la culture ou vers un projet humanitaire. Mais ce qui est commun à ces deux prix est que le Grand Prix Louis D, qui se situe financièrement à la hauteur du prix Nobel, n'est jamais décerné à un individu, il vient soutenir toujours une équipe ou un projet collectif. À l'inverse du prix Louis D, c'est à une personne que la Fondation Simone et Cino del Duca attribue chaque année son Grand Prix culturel, auquel s'ajoutent des bourses destinées à de jeunes écrivains. Mais par ailleurs, la Fondation del Duca décerne un grand prix d'archéologie qui couronne cette fois les travaux d'un groupe de recherche. Cette année, le choix du jury s'est porté sur la délégation archéologique française en Afghanistan qui contribue à la renaissance culturelle de ce pays meurtri par les guerres. Le prix del Duca 2006 a récompensé les découvertes faites depuis 4 ans sur les chantiers de fouilles de la Bactriane. Il permettra aussi de financer les travaux de restauration du patrimoine afghan. Toujours dans le champ culturel, certaines fondations se consacrent à des objectifs précis. Ainsi en va-t-il des fondations Le Fort Beaumont, tournées vers la restauration du patrimoine, Art Dialogue, qui encourage les œuvres d'art conçues pour la rue, Coulon et Auréline Moore, qui ont pour mission de soutenir la sculpture figurative ou des œuvres peintres. Les fondations Jeannelli et Jean-René Fourtou et Cora se consacrent la première à l'art contemporain, la seconde aux chercheurs et écrivains. Elle a notamment soutenu l'Académie tunisienne Beit al-Hikma dans son projet d'édition critique de la Chrestomathie arabe de Sylvestre de Sassy, conservée à la bibliothèque de l'Institut. L'éducation est une autre priorité de certaines fondations, comme ECAR, qui soutient l'enseignement et la création artistique, ou encore Blanc-Ménil et Sophie Germain. Encourager la communication et les technologies de l'information, y préparer les individus, c'est le domaine privilégié des fondations Steria et Pierre Dumas. L'humanitaire est un vaste domaine d'action qui jouit de la faveur des donateurs. L'aide à l'enfance handicapée, démunie, maltraitée, la protection des enfants sont les directions choisies par les fondations d'AIS ou de HEC. L'écologie, l'environnement, le développement durable, l'eau si nécessaire à la vie de l'humanité et qui devient rare, autant de sujets dont se préoccupent les fondations Yves Rocher, Fourtou une fois encore, Avenir Finance, Jacques et Françoise Lescouzer. Peu de domaines échappent désormais à la vigilance de mécènes désireux de mettre leurs biens au service d'autrui. Leur souci de solidarité se traduit par l'aide à des méthodes particulières d'assistance, telles le microcrédit, qui est l'un des chapitres de l'action de la Fondation Rodolphe Mérieux pour la recherche, par ailleurs et pour l'essentiel orienté vers la santé publique, et de la Fondation Fitrust. Même les animaux, dans leur rapport avec les humains, ou tout simplement pour leur sauvegarde, ne sont pas oubliés. La Fondation Bottio du Lac y pourvoit chaque année. Pardonnez-moi cette énumération trop rapide et par là même un peu fastidieuse des fondations qui œuvrent dans les domaines culturels et humanitaires. Mais comment ne pas saluer ici la générosité si remarquable de tous les donateurs qui ont voulu s'engager dans cette voie avec l'Institut. Ces fondations, nées d'initiatives privées et d'une générosité immense, qui viennent appuyer certes des efforts publics, mais qui leur confèrent une ampleur et une diversité toutes nouvelles, représentent un acte de foi. En un temps où les progrès rapides du savoir dans toutes les disciplines déconcertent, voire effraient les hommes, leur imposant un perpétuel effort d'adaptation, le mécénat culturel et humanitaire de l'Institut de France contribue à les préparer aux défis qu'ils rencontrent et à les aider à les surmonter. Les fondations et leurs lauréats sont les symboles d'une volonté de solidarité, d'une capacité à dominer un monde toujours plus complexe et déroutant, et par-dessus tout, de confiance dans l'avenir. Le mécénat de l'Institut est aussi le témoignage de la capacité de la société civile à vivre avec son temps, à être un acteur à part entière d'une culture vivante et d'une solidarité sans faille avec toutes les causes humaines.
Merci, Madame le Secrétaire perpétuel, de cet excellent tableau que vous avez dressé du mécénat et du mécénat tel que pratique l'Institut de France et les différentes académies qui le composent tout en ayant leur nature propre. Un problème de théologie, mais ça, vous l'avez déjà résolu. Et je vais donner maintenant la parole à Madame Florence Delay, qui va nous présenter le lauréat du Grand Prix culturel de la Fondation Louis D.
Comme le rappelait à l'instant Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, depuis l'an 2000, la Fondation Louis D n'attribue pas seulement un grand prix scientifique annuel, mais un autre d'égale importance qui va alternativement à des associations ou des fondations dévouées aux humains en difficulté, c'est son prix humanitaire, soit, c'est le cas cette année, à des associations ou des fondations qui maintiennent en vie le meilleur de nous-mêmes, disons notre civilisation, c'est son prix culturel. Ce prix a été remis en 2002 à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, au Liban, pour la création d'une chaire d'anthropologie interculturelle. En 2004, à la Fédération internationale des professeurs de français, qui rassemble 80 000 enseignants de notre langue à travers le monde. Et en 2006, il va être remis, mais permettez-moi de rappeler auparavant combien il est royal par le simple prénom qu'il porte, Louis. Par son montant, 750 000 euros, et républicain par la simple initiale qui maintient la vertu de l'anonymat, par son objectif surtout, soutenir des actions et des personnes morales. Le Grand Prix culturel Louis D est remis cette année à l'Alliance française, bloc de mots infrangibles, espérons-le, et plus précisément aux Alliances françaises de Pologne. C'est ce dossier qu'une commission de l'Académie française réunie autour de son secrétaire perpétuel a privilégié, et voici pourquoi. L'Alliance française, créée en 1883 à Paris de France, comme disait Valérie Larbeau, compte aujourd'hui dans le monde plus de 1000 établissements et s'émet sur les 5 continents. À l'heure où tant d'instituts français ont fermé ou ferment leurs portes en Europe, afin, dit le ministère des Affaires étrangères, de mener une politique de redéploiement ailleurs, il est capital que les portes des alliances où s'enseigne notre langue et notre culture restent ouvertes. Les effectifs de l'Alliance française progressent sans cesse dans le monde. Ils baissent en Pologne. Si nous considérons la seule Europe, les Pays-Bas viennent en premier, avec 34 alliances et 8700 étudiants, suivi de l'Espagne, 25 alliances et 9600 étudiants. La Pologne, le plus grand pays de l'Union européenne élargie, ne compte que 16 alliances et 4500 étudiants. 16 sur tout le territoire polonais, les premières ayant été créées dans les années 70 à Katowice, Łódź, Gdańsk et Wrocław. Dans ces grandes villes, le nombre des étudiants est d'environ 400 par semestre. Ils ne sont plus que la moitié dans les villes moyennes et moins du quart dans les plus petites alliances. Non que les liens exceptionnels que France et Pologne ont entretenus s'effacent, mais tout simplement parce que le français n'est plus la langue préférée de la jeunesse polonaise. Trois autres langues lui sont passées devant, l'anglais, l'allemand et le russe. Ne pleurons pas sur le passé. Sur le temps révolu où de grands chefs-d'œuvre de la littérature polonaise s'écrivaient en français. Je songe aux légendaires manuscrits trouvés à Saragosse, restés si longtemps anonymes et dont notre confrère Roger Kajwa découvrit l'auteur, le comte polonais Jean Potocki. Ni sur le temps où d'éminents savants français, tous deux prix Nobel, Pierre et Marie Curie, ayant réussi à extraire de minerais d'uranium deux éléments beaucoup plus actifs que celui-ci, l'un des deux était baptisé polonium pour honorer la patrie d'origine de Marie Curie. Mais dans la mesure où nous pouvons œuvrer au présent, c'est-à-dire au futur, grâce à la générosité d'un mécène éclairé, œuvrons. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles alliances, mais de renforcer le réseau des 16 existants déjà. Le projet présenté propose, dans un premier temps, de centrer l'effort sur les 5 ou 6 les plus performantes. Elles n'ont pas, je crois, encore été désignées, mais tout porte à croire que ce seront les plus anciennes peut-être, ou celles qui dépendent de l'Université de Varsovie. On ne sait encore. Il faut accroître et rajeunir les locaux, mieux les équiper en matériel informatique et multimédia, créer des espaces de formation adaptés aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Cette modernisation est nécessaire pour la suite, car elle permettra dans un second temps l'exploitation d'une plateforme numérique par les professeurs, exploitation par les professeurs et par les étudiants. Sans formation ouverte et à distance, comment en effet élargir le cercle des amis de la langue française et par conséquent de la France? Qu'en est-il aujourd'hui du statut de ces alliances? Elles dépendent pour la plupart juridiquement et financièrement des universités polonaises, parfois de simples mairies. Ayant appartenu toute ma vie à l'université, plus précisément à la Sorbonne Nouvelle, je sais bien que la chère alma mater n'est pas aussi libre que j'imaginais quand j'étais jeune. Au fil des ans, on prend conscience que l'on dépend de tout, du gouvernement, de tel ou tel ministre de l'Éducation nationale, de nouvelles lois, de circulaires. Les universités ne sont pas des forteresses à l'abri des vents mauvais qui soufflent, pas à l'abri des ondes porteuses de microbes. Je songe à une radio pestilentielle qui effraye jusqu'aux évêques polonais et jusqu'au pape qui n'est pourtant plus polonais. Autant dire que la liberté, au singulier comme au pluriel, est un objectif sans fin. La liberté est un des trois principes qui gouvernent, non hélas notre réalité, mais notre imaginaire. Et nous rêverons toujours que l'imagination soit au pouvoir. Pour en revenir aux alliances françaises de Pologne, il nous a semblé que soutenir leurs désirs et leurs besoins d'autonomie était un préalable à la réussite d'un projet très important. Les personnalités du monde de l'éducation, de la culture, de l'entreprise, de la politique, qui siégeront dans les futurs conseils d'administration, doivent être choisis librement, ne dépendre d'aucun de ces éléments, vent et marée néfaste, que j'évoquais il y a un instant. Les alliances françaises, je le rappelle, sont apolitiques et non confessionnelles. Qu'elles puissent remplir leur mission, retrouver un nouvel élan, continuer non seulement leur travail, mais leur récréation, ces semaines où la France qui pense, écrit, peint, chante et danse est là, avec son beau visage de printemps, son beau visage du passé redevenu présent, voilà ce que le prix Louis D, remis aux Alliances françaises de Pologne, rend possible, d'où notre grand merci.
La parole est à nouveau à Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Madame Carrère d'Ancos, pour nous donner le nom et nous indiquer les qualités, il n'y a que cela, du lauréat du prix littéraire de la Fondation Simone Cino del Duca. Madame la secrétaire perpétuelle, vous avez la parole.
En 2005, le prix mondial del Duca avait couronné l'œuvre de Simon Leys. Un an plus tard, c'est sur le nom de Jean Clerc que s'est porté le choix d'un jury unanime. De Simon Leys à Jean Clerc, la continuité des intentions du jury de ce prix prestigieux s'impose. Fidèle au souhait exprimé par la généreuse fondatrice de ce prix, Madame Simone del Duca, le jury a voulu privilégier une œuvre porteuse d'un message humaniste et une œuvre de réputation internationale. Jean Clerc, de son vrai nom Gérard Régnier, est né en octobre 1940 à Paris. Étudiant brillant, curieux de philosophie tout autant que d'art, il obtint à la Sorbonne un doctorat ès lettres et à Harvard un doctorat en philosophie de l'art. À cette double formation, il doit une brillante carrière au service de l'art et une œuvre écrite éblouissante. Conservateur des musées, il fit ses débuts au musée d'art moderne, puis au musée Pompidou, avant de prendre la direction du musée Picasso, qu'il conserva jusqu'à l'an dernier. Pédagogue, il enseigna à l'école du Louvre et sa réputation internationale lui valut en 1994 la direction de la Biennale de Venise. L'art contemporain le mobilisa très tôt et le porta au premier plan des recherches, des débats et des polémiques qui touchent à l'art et à la création de notre temps. Il fut responsable de revues, d'abord rédacteur en chef des chroniques de l'art vivant, avant de fonder et diriger les cahiers du musée d'art moderne. L'historien d'art et le conservateur de musées fut le commissaire de très nombreuses expositions qui auront marqué l'histoire des 30 dernières années. On lui doit en 1977 l'éblouissante rétrospective Marcel Duchamp, qui accompagne l'ouverture du musée Pompidou. Jean Clerc ajoutera au catalogue raisonné de l'œuvre un ouvrage publié l'année suivante intitulé « Duchamp et la photographie », puis en 1975 un essai « Marcel Duchamp ou le grand fictif » et avec le nouveau siècle un livre provoquant sur Marcel Duchamp et la fin de l'art. Il multiplia les grandes expositions qui attirèrent au musée Pompidou des foules éblouies. Les réalismes entre révolution et réaction, véritable histoire artistique des années tragiques de l'entre-deux-guerres. Bonnard, puis en 1983, la première grande rétrospective de l'œuvre de Balthus. L'exposition du musée Pompidou fut ensuite acclamée à New York et à Kyoto. Elle allait apporter à l'un des maîtres de la peinture du XXe siècle, célébré certes par des écrivains et des poètes, mais encore mal connu des foules, l'audience mondiale qui manquait à sa gloire. Jean Clerc, qui a toujours porté une attention particulière à Balthus, dont il est l'un des plus grands connaisseurs, lui a consacré un catalogue raisonné qui est une somme de recherches et de réflexions. Insistant sur les sources littéraires et philosophiques qui dirigent, viennent l'Apocalypse joyeuse, ont permis au commissaire de l'exposition de mêler étroitement l'histoire du crépuscule européen et l'histoire de l'art, dans une ville magique où, plus qu'ailleurs, pouvaient être perçus les soubresauts de l'histoire dont Stefan Zweig s'est fait le chroniqueur. Montréal fit appel à Jean Clerc pour l'exposition Les années 20, l'âge des métropoles. Le philosophe y cohabita avec le spécialiste de l'art contemporain et l'historien pour tenter de déchiffrer une période cruciale où, au sortir d'une guerre qui, pour la première fois, était mondiale, se mêlent révolution et volonté de rétablir l'ordre autour des métropoles qui attirent alors les esprits les plus novateurs. Ce fut en effet l'âge des métropoles, celui aussi où le cinéma prend place parmi les moyens d'expression, celui des grands débats sur la relation entre projet politique ou même utopie et art, celui d'une évolution de la modernité vers un certain académisme. Tout cela, la curiosité insatiable de Jean Clerc, mêlée à des connaissances exceptionnelles, embrassant les disciplines les plus diverses, le brassera pour présenter les années 20 de manière contradictoire, heurtée, mais en définitive ouverte sur un avenir inquiétant. D'autres expositions encore jalonnent ce parcours, accompagnées d'ouvrages érudits, sur Picasso notamment. Ouvrages toujours lisibles, soucieux de faire comprendre l'art et non de l'enfermer dans un monde mystérieux réservé à quelques initiés. En 2005, c'est le miracle de Mélancolie, génie et folie en Occident. Mélancolie, un mot que l'Académie française peina à définir pour son dictionnaire, et l'exposition explique bien pourquoi ce fut si difficile. Jean Clerc a su y rassembler tous les aspects géniaux, déments, déprimants, inspirants de la mélancolie à travers tableaux et objets ou ouvrages. Il a surtout, au-delà même de l'exposition, montré ce qu'était le génie de l'Occident, ce qui probablement constituait son identité. Avec cette exposition, Jean-Clair aura fait la preuve qu'une exposition n'est pas simplement une manifestation culturelle, un des moyens de diffuser l'art auprès du public, mais qu'elle est une création à part entière, une œuvre au sens plein du mot, que le commissaire qui l'imagine est un véritable auteur. Une exposition est certes éphémère, mais ce qu'elle a apporté demeure, comme le livre qu'on a lu. Le jury du prix Tel Duca a voulu aussi saluer cette œuvre de création pure de Jean-Clair. Mais le lauréat est aussi un écrivain, un essayiste aux facettes multiples, un polémiste comme il en est peu, prenant part aux débats et aux querelles artistiques en premier lieu. On lui doit une réflexion mordante sur l'histoire des surréalistes et des propos assassins sur André Breton, dont il a fustigé les dérives totalitaires. De brefs, mais très brillants essais, tels le paradoxe sur le conservateur, mettent en cause la religion de la modernité et ses conséquences désastreuses sur l'art. Opposant l'invention de la pénicilline en 1928 et la même année l'apogée du style puriste issu du Bauhaus, Jean-Clair évoque en quelques pages sarcastiques mais profondes ce qu'il nomme le diktat de l'art abstrait. Et cette année, le journal Atrabilaire a permis à Jean-Clair de laisser libre cours à ses indignations. Il est peu de domaines qui, dans ses 224 pages étincelantes d'esprit et de vigueur, échappent à la critique des idées reçues à laquelle se livre l'auteur. Destruction de la langue française et donc de la capacité de comprendre et raisonner. Civilisation de l'instant dominée par l'image et le téléphone portable. Passion exacerbée d'une modernité déifiée qui aboutit à glorifier des artistes dits vivants, des spectacles vivants qui ne sont plus, dit Jean-Clair, que des morts vivants. Mais aussi terrorisme intellectuel, jeunisme, hantise de la sécurité, rejet de la mort, souci obsédant de protéger l'enfant cohabitant avec une pornographie envahissante. Rien n'a échappé à cette plume ravageuse. Et pourtant, reste la confiance dans l'esprit. Et deux pages consacrées à la lecture, dont on ne peut manquer de citer ici quelques lignes. Je cite « Pouvoir hallucinatoire de la lecture, qui fait une voix, page après page. Elle est assez réelle et singulière pour que nous en gardions l'inlassable écho, bien après que nous avons refermé le livre. Ces ombres bariolées, il s'agit ici de la télévision, agitées et bruyantes qui prétendaient toutes à une parfaite objectivité, n'étaient que des illusions, alors que le simple mot imprimé, comme un puissant golem, garde le pouvoir de faire lever les morts. Le livre, avec ses pauvres moyens, est décidément du côté du verbe et de la chair, et l'image, dans sa labilité et dans sa prolifération, du côté de la corruption et de la mort. Enchanteur des yeux et de l'esprit, homme libre par la pensée et l'expression, comment Jean-Clair aurait-il pu ne pas séduire le jury du prix mondial Sino Del Duca ? Comme l'an dernier, le jury a voulu saluer des dons exceptionnels, une œuvre immense et superbe, et un très grand courage intellectuel.
Merci, Madame la secrétaire perpétuelle, de nous avoir fait mieux connaître le lauréat de ce prix. Et ce que vous en avez dit me rend déjà plein d'appétit. Avant de mettre la séance et de vous inviter à nous retrouver en salle Comtesse de Caen, dans le pavillon occidental de ce palais de l'Institut, je tiens à redire, au nom de l'Institut de France, nos vives félicitations aux lauréats des différents prix qui montrent la volonté de mécénat éclairé de l'Institut des Cinq Académies et nos sentiments de gratitude à l'ensemble des mécènes créateurs des fondations abritées sans lesquels nous n'aurions pas cette cérémonie. La séance est levée.
Retrouvez dans la médiathèque du Canal Académie la retransmission des séances de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie des beaux-arts et les séances solennelles sous la coupole de l'Institut de France. Bonne écoute sur Canal Académie.